Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant Cœur à cœur avec Fouad Hassoun et Bertrand Chevalier-Chantepie. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de Radio Maria. En ce beau mois de mai, semé de la blancheur du Lys de Saint-Joseph, la blancheur de la Sainte Vierge. Ce beau mois où la nature, les fleurs refleurissent, hein, la nature rejaillit à nouveau, la vie recommence. Après un hiver qui était lourd, qui était froid, qui était difficile, quittons les hivers de nos cœurs et venons dans cette espérance du mois de mai vivre entre cette fête de l'Ascension et cette belle fête de la Pentecôte, où le Seigneur nous a promis qu'il allait nous préparer une place, qu'il allait nous préparer la bonne place. Et il va préparer nos cœurs à la joie. Je sais que vous êtes triste que je vous quitte, disait le Seigneur, mais soyez dans la joie, car je ne vous quitte vraiment pas, en fait. Je ne vous quitte pas parce que je vais vous envoyer le paraclet, le défenseur, celui qui va vous donner cette force pour aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde, accompagné par tous les dons de l'Esprit-Saint. Mais le plus grand don que nous avons reçu du Seigneur, c'est le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Il nous a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Le plus grand don pour un chrétien, c'est sa foi en Jésus-Christ, la foi qui fait transporter les montagnes, qui soulève tous les poids, qui supporte toutes les souffrances, qui porte les plus lourdes croix avec joie, parce qu'il y a cette belle espérance de la résurrection que nous allons traverser, les ravins de la vie, les difficultés, les obstacles, armés par les dons de l'Esprit-Saint et par notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Chères auditrices, chers auditeurs, oui, au mois de mai, j'ai envie de vous dire bonne fête, bon mois de mai, bonne montée vers la Pentecôte. J'ai envie de vous souhaiter plein de belles choses, plein de fleurs dans votre vie. Et oui, avec Saint-Joseph, le travailleur avec qui nous avons commencé ce beau mois de mai, et la Sainte Vierge, mère de la miséricorde, mère de tendresse, mère du Seigneur. Voilà, vivons ensemble ces fêtes avec la joie dans le cœur, en espérant que la paix règne, que la paix advienne sur notre terre. Oui, pensons à toutes les victimes des guerres en Ukraine, en Russie, en Israël, en Palestine, partout où le feu de la guerre est allumé. Prions pour que le Seigneur envoie le feu de l'amour, le feu de la paix, le feu de la joie, comme il a fait le jour de la Pentecôte sur les apôtres. Oui, mais au milieu d'eux se tenait Marie. Donc, gardons-la auprès de nous, au milieu de nos foyers, au milieu de nos vies, pour qu'elle puisse nous amener vers la Pentecôte, pour qu'elle nous donne avec Jésus ce zèle missionnaire et cette force de supporter toutes les épreuves et de croire que la vie est belle et l'espérance dans une paix durable, dans une vraie paix à laquelle nous aspirons tous, oui, elle est possible, cette paix. Il a donné sa vie pour la vie, alors vivons de ce don qui est la vie. Bertrand, bonsoir.
Bonsoir, Fouad.
Je suis content de te retrouver ce soir et de continuer avec toi notre cheminement. Bertrand Chevalier-Champis, vous le connaissez sur Radio Maria, un monsieur qui s'occupe beaucoup des hommes, mais un monsieur aussi qui a beaucoup à nous dire et il fait beaucoup. La dernière fois, tu m'as parlé et tu nous as parlé, cher Bertrand Chevalier-Champis, de comment le Seigneur t'a amené à ce que tu vis aujourd'hui, à ce que tu quittes tout ce qui était assurance dans ta vie, tout ce qui était sécurisé, le travail, tout ça, pour donner ta vie au service des autres. Un courage, un dépassement de soi, une folie aussi un petit peu, mais on n'a pas eu trop le temps de parler de ce que tu fais, Bertrand Chevalier-Champy, dans ta vie. Si tu peux nous dire quelles sont les missions dans lesquelles tu es investi aujourd'hui et comment tu les vis, toi, avec ta famille et tes amis, quel est ton engagement aujourd'hui, là, ce mois de mai de 2024, que fait concrètement Bertrand Chevalier-Champy?
Merci Fouad pour cette vaste question. Cette question simple qui va entraîner une vaste réponse. Alors, j'ai plusieurs activités qui fonctionnent en parallèle et qui se répondent mutuellement. D'abord, je fais de la sculpture, c'est que j'ai une fibre artistique depuis toujours que je n'ai jamais exploitée. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé que mes dons, tous mes dons, quels qu'ils soient, devaient être exploités pour en faire un cadeau pour le monde et puis accessoirement pour en vivre aussi. Il se trouve que je me suis mis au modelage il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et puis, ça devient une activité professionnelle, commerciale, rentable, qui se déploie toute seule, sans faire plus d'efforts que ça, puisque la demande se construit progressivement. Je commence avec des statues. Alors, je suis un fan de Saint-Joseph, donc je fais pas mal de statues de Saint-Joseph. J'ai eu la chance d'en faire à la demande du diocèse de Versailles pour participer à mon petit niveau au financement de l'église Saint-Joseph le Bienveillant. Donc j'ai créé une statue à cette occasion. J'en avais déjà fait d'autres avant. Et puis là, je travaille sur des dossiers de statues d'église pour plusieurs églises, des grandes statues qui iront dans des églises et puis également des reproductions de statues existantes dans des églises. Alors là, c'est une dimension un peu plus industrielle, puisque c'est à base de scanner 3D, de numérisation, d'impression 3D, etc. Donc on rentre dans mon ancien métier d'informatique, donc ça m'amuse bien. Et voilà, donc tout cet univers, ça c'est un premier univers de ma vie qui consiste à développer ce talent artistique, voilà, c'est cette fibre sensible que je porte de mon ascendance maternelle, de la famille de maman, où il y a pas mal d'artistes qui vivent de leur art déjà, donc ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire pour moi.
Mais Bertrand, l'artiste que tu redécouvres en toi te mène à créer ses œuvres et à les mettre au service de l'Église et à en faire un outil, un instrument d'évangélisation. Et tu as dit Saint-Joseph, que j'aime beaucoup. Que représente Saint-Joseph à toi, Bertrand? Quelle est cette figure dans ta vie et comment elle se déploie au milieu de ce que tu es en train de nous dire, de ce que tu es en train de faire?
Eh bien, Saint-Joseph, pour moi, c'est comme certains l'ont déjà dit, c'est l'ombre du Père éternel, bien entendu. C'est l'ombre de la figure paternelle. C'est une figure paternelle et c'est une figure paternelle que j'ai envie d'imiter. Auparavant, Saint-Joseph, je le trouvais un peu niais, vous voyez, un peu, voilà, un peu mou, un peu, voilà. Et à force de le fréquenter, de le travailler, de méditer autour de sa figure, de relire les Écritures à son sujet, j'ai maintenant une toute autre image. Et puis j'ai beaucoup travaillé la question du Père et qui match parfaitement avec le peu qu'on dit de Saint-Joseph. Parce qu'on en parle beaucoup, alors que l'Évangile en dit peu, mais il ne dit pas aussi beaucoup d'autres choses qui sont évidentes en fait quand on est figure de Père.
C'est une interprétation des gens pour la figure de Saint-Joseph. Et toi, en tant qu'artiste, tu interprètes ce Saint-Joseph. Donc, cette figure de père se caractérise comment dans tes œuvres et qu'est-ce que tu donnes comme image de Saint-Joseph? Après, on donnera ton site pour que les gens aillent voir tes statues. Mais c'est quel Saint-Joseph que tu représentes par tes œuvres, par tes créations?
J'ai créé trois Saint-Joseph. Les trois font acte d'une très grande présence. Pour moi, le cœur de la paternité, c'est la présence. La présence aux autres, qui suppose évidemment la présence à soi, pour être en relation vraie, authentique, sincère, droite. Voilà, oser regarder les yeux dans les yeux, oser regarder ses enfants quand on en a la chance d'en avoir, et puis les faire exister par notre regard. Je dis souvent que si la maman donne la vie biologique, charnelle, le papa, il donne la vie psychique, l'individuation en termes psychologiques. Que le papa, il fait des êtres libres, il produit des êtres libres, et ça, il le fait en les regardant. C'est la première chose. Donc cette présence, elle est omniprésente dans mes œuvres, mes représentations de Saint-Joseph. Après, aujourd'hui, j'ai créé trois versions un petit peu de Saint-Joseph. Une, c'est un Saint-Joseph qui présente Jésus au monde et qui est discret puisqu'il est caché derrière lui. Et en même temps, si Saint-Joseph n'est pas là, Jésus bébé, il peut gesticuler par terre, il ne se passera pas grand-chose. C'est un Saint-Joseph qui marche, donc qui est en mouvement. C'est un Saint-Joseph qui est dynamique puisqu'il porte l'enfant Jésus devant lui, donc il fait œuvre d'une certaine force, d'une certaine stabilité, toujours d'une grande présence. Ma deuxième création, ça a été une reproduction d'une statue qui existe, que j'aime beaucoup, qui est la figure d'un père très tendre. C'est le père de tendresse. C'est la statue qui est dans l'église du père Philippe de Mestre, qui se trouve à Saint-André d'Europe, qui est un Saint-Joseph qui tient l'enfant Jésus, et il y a un échange de regards entre l'enfant et le père. Et je trouve la posture de Saint-Joseph très belle. Et puis la troisième statue de Saint-Joseph que j'ai créée, c'est une statue qui fait d'abord acte de présence, acte de paix, et puis acte à la fois de protection et d'encouragement. C'est-à-dire que Saint-Joseph est un modèle, pour moi, un modèle de force, de droiture, de douceur. Tout ça, ça va ensemble. Et être doux, ce n'est pas être féminin. La douceur, le cœur, ce n'est pas un attribut féminin. Les hommes ont du cœur aussi. Et ça fait partie de notre humanité pleine et entière. Et je n'aime pas sexualiser tous les attributs de caractère, ce qui n'a aucun sens. Et là, c'est une figure de Saint-Joseph qui tient le bois de la croix en préfiguration, enfin qui tient une poutre de charpente préfiguration du bois de la croix et qui se présente derrière Jésus qui a une douzaine d'années, à qui Saint Joseph apprend à tenir la croix, qui sera, enfin le bois, qui sera sa future croix. Et donc les deux sont dans une posture où ils regardent dans la même direction et c'est dans une grande douceur, dans une grande stabilité. Voilà, donc pour moi Saint Joseph c'est ça, c'est d'abord la présence. C'est le mouvement, c'est la tendresse, et c'est la droiture, la force stable.
Les statues ne parlent pas, mais un artiste les fait parler, leur faire dire beaucoup de choses. Dans ces statues, que dit Saint-Joseph à Bertrand Chevalier Chantepie? Si tu as une parole que tu as reçue de Saint-Joseph, que tu peux nous partager, quand tu as fait ces mouvements, quand tu as fait ces créations, est-ce que Saint-Joseph a parlé à Bertrand Chevalier Chantepie? A-t-il dit quelque chose qu'il peut partager avec nos auditeurs ce soir?
Oui, merci de me poser cette question, elle me percute un petit peu. Saint-Joseph, il me dit « imite-moi ». Et il me dit « aide les hommes à m'imiter ». Donc, voilà, invite les hommes, inspire les hommes pour qu'eux-mêmes m'imitent. Et ose m'imiter, puisque c'est difficile d'être père. On ne sait pas forcément ce que c'est d'ailleurs d'être père, à part partager ses chromosomes et son spermatozoïde et faire un enfant. Derrière, à quoi consiste la fonction paternelle? Ben, il me semble que Saint-Joseph nous en indique beaucoup. Et Saint-Joseph, lui, s'est totalement inspiré de l'image de Dieu Père qui est caractéristique dans les psaumes, où en fait la paternité de Dieu, elle est très large, c'est une fonction très large, très complète, très équilibrée aussi. Et Saint Joseph, je ne peux pas imaginer que Dieu se soit choisi un père qui ne soit pas expert en paternité.
Alors ce père qui te dit « sois un père », aide les autres à l'être, Ça nous fait une transition très sympathique avec ce que tu fais aussi à côté. Tu t'occupes des hommes, on en avait parlé un peu la dernière fois, au cœur des hommes, cœur de père, etc. Que fait aujourd'hui que tu puisses devenir, qu'est-ce qui fait que tu puisses devenir ce père instructeur comme Saint-Joseph, puisqu'il faut leur apprendre à devenir père? Qu'est-ce qui a fait que Bertrand Chevalier-Champy est devenu cet instructeur, ce transmetteur de la mission de père aux hommes que le Seigneur lui confie pour s'en occuper?
Oui, alors en entendant ta question, j'ai peur d'être très présomptueux.
Vas-y, allons-y ce soir, soyons.
Parce que bon, je suis un pauvre papa, heureux papa de trois enfants, alors qui sont merveilleux et à qui je crois avoir transmis beaucoup de choses avec mon épouse. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette question autour de c'est quoi la paternité. Donc, je me suis enquillé les 150 psaumes pour relever, par exemple, les caractéristiques du Père, de Dieu, et sa relation, comment il fait, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Et donc, c'est beaucoup de travail d'avoir essayé, j'ai essayé de reconstruire un schéma simple de ce que c'est la paternité pour permettre à des papas de s'en emparer simplement sans devenir des philosophes, sans devenir des exégètes, sans devenir des théologiens, sans devenir des psychologues, mais simplement être des papas avec des choses simples et pratiques. Voilà, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui traîne un peu, mais je veux le maintenir très simple volontairement pour que tout le monde puisse s'en emparer, puisque il me semble, moi j'en ai pas rencontré, j'ai vu aucun papa dire « moi, la paternité, c'est évident, c'est facile, c'est évident ». Non, on est tous au pied du mur, personne n'a été formé à cette question-là, explicitement, et on a besoin, me semble-t-il, aujourd'hui, de choses simples, en particulier, puisque la famille est en... Moi, il me semble que la famille est en grand danger actuellement, et la principale raison de cette déstructuration, de ce délitement de la famille, selon moi, hein, c'est mon analyse, mais elle est partagée par beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à la question, c'est la disparition des pères, qui provoque à la génération d'après des troubles d'ordre sociaux. Et c'est pour ça que j'ai la grande joie parmi mes activités de développer une activité autour des hommes qui sont en prison, puisque en prison, on sait que c'est l'essentiel des prisonniers, des personnes incarcérées, sont des hommes à 97% en France. Et une chose incroyable que je ne savais pas et que j'ai découvert, c'est que quasiment la moitié de ces hommes-là sont des pères. Ça signifie que la moitié des centaines de milliers de personnes qui sont en détention ont en fait des enfants. Ces enfants sont devenus orphelins de père pour une période, avec un père qui va rentrer chez lui dans une forme de culpabilité, dans une forme de fatalité. Et ces hommes-là, ils ont besoin d'être aidés pour reprendre leur job, leur fonction, se réconcilier avec eux-mêmes et se réconcilier et garder le lien avec leurs enfants. Ça participe directement à la paix sociale.
Et nous retrouvons Bertrand Chevalier-Champy, mon invité, et nous continuons cet entretien où nous parlons de la paternité de Saint-Joseph. Et j'ai une question à te poser, Bertrand Chevalier-Champy. Dans un monde ou une société moderne, notamment en Occident, et c'est un peu le cas partout maintenant, il y a une sorte de féminisation de le père, l'homme, etc. C'est un petit peu mis un peu de côté, réduit, parfois même à néant. Et puis là, on cherche un petit peu à retrouver des figures paternelles, des figures masculines, etc., à mettre en avant. Saint Joseph trouve vite sa place dans l'Église, dans nos familles, nous les chrétiens aussi. On a souffert un peu de cela. On a aussi mis beaucoup en avant la figure maternelle de Marie, quand même, qui prend beaucoup de place. Et elle a raison, je dirais, elle est mère de tendresse, mère de miséricorde, mère de Dieu, énorme quand même comme attribut, mais elle est quand même l'épouse de Joseph, ce saint qui a été, comme tu le disais tout à l'heure, dans le silence. Alors comment aujourd'hui placer ce père, figure masculine, d'un travailleur, éducateur, à côté d'une maman un peu envahissante, une femme assez présente, et comment Saint-Joseph a retrouvé sa place, ou comment l'homme, aujourd'hui, chrétien, peut s'inspirer de la figure de Saint-Joseph pour trouver sa place dans sa famille et dans la société, et puis même, si j'ose, et pardonne-moi, dans l'Église.
Oui, là, déjà, je pense, j'ai utilisé un terme qui pique, mais on a besoin de déconstruire. On a besoin de déconstruire l'image qu'on a de Saint-Joseph. Saint-Joseph le silencieux, je suis désolé, mais c'est une vaste ânerie. Saint-Joseph est silencieux avec Dieu. Il est silencieux avec le Père. Il écoute le Père. Il se laisse modeler par le Père. Il accepte, il consent. Là, il est silencieux dans sa relation avec le Père. Mais il n'est pas silencieux ni avec sa femme, ni avec son enfant, Jésus, ni avec le monde. Aujourd'hui, on a l'image de Saint-Joseph un peu absent, parce qu'on nous a décrit un Saint-Joseph un peu sirupeux, un peu gentillet, un peu doux, un peu caché, un peu retiré. Ce qui est totalement faux. Un père dans la tradition juive, c'est lui qui enseigne son fils. Et on ne peut pas imaginer que Jésus se soit choisi un père inexistant. Sinon, il ne s'en serait pas choisi. Mais il a... Et c'est lui le chef de la Sainte Famille. Il est Saint-Joseph l'imparfait, et ça c'est un autre sujet qui nous intéresse beaucoup, il est chef de Dieu, fils, c'est quand même un truc de fou, et Dieu lui est soumis, et il est chef de Marie, qui est Immaculée Conception. Donc en fait, dans cette...
Dans grosse cette responsabilité, famille, le gars hein.
Voilà, grosse responsabilité. Donc, il est là parce que avant de recevoir cette responsabilité, il est déjà juste. Qu'est-ce qui le rend juste? C'est qu'il est silencieux avec Dieu, qu'il est en relation intime avec lui, et il ne s'étonne pas d'avoir des songes, il ne s'étonne pas d'avoir des interventions de Dieu dans sa vie, et ça lui semble totalement normal.
Et il est obéissant aussi à la volonté de Dieu, Bertrand Chevalier
Champier. Il est obéissant à la volonté de Dieu parce qu'il expérimente cette relation. Il a déjà préalablement expérimenté
et
cette relation.
Nous, là, qui vivons dans une société un peu rebelle. On a un peu adapté Dieu comme on veut, si on le laisse un peu de la place. Là, je suis sur Radio Maria, ce sont des chrétiens qui nous écoutent, etc. Mais nous avons tous, chers auditeurs, dans nos familles, dans nos amis, des gens qui ne croient plus. En tout cas, il n'y a plus Dieu dans leur vie, et s'il y a Dieu, il n'est pas à la première place. Comment, par tout ce que tu fais, Bertrand Chevalier Chantepie, tu arrives à mettre Dieu en premier dans ta place et par cette inspiration de Saint-Joseph, le père, bon, voilà, chef, patron, un peu fils de David aussi, d'une lignée extraordinaire, une responsabilité si importante et si précieuse. Comment tu arrives à construire, maintenant que tu as déconstruit l'image, quelle construction nouvelle dans ta vie et comment ça t'a aidé, Bertrand Chevalier-Champy, à te reconstruire toi-même et être ce que tu es aujourd'hui. Et bien sûr, je l'espère que tu vas continuer aussi à construire des belles choses pour toi et pour tous ceux que le Seigneur t'offre dans ta vie.
Oui. Alors, le point de départ, moi, de ma bascule, ça a été de me réconcilier avec ma dignité d'homme, de reconnaître que d'être un homme, c'était quelque chose qui était fondamentalement bon, nécessaire, digne, et que c'est le plan de Dieu sur moi. Voilà, il m'a pas fait homme, il m'a pas fait femme, il m'a fait homme. Je suis désolé, mais il n'y a pas de virgule. Et je suis homme ou femme, et donc tout l'enjeu de ma vie, c'est d'aligner, d'intégrer cette dimension masculine. Et là, il y a aussi de la déconstruction à faire dans ce monde, effectivement, très féminisé, où en fait, il y a un féminisme assez offensif. Et il y a, les hommes se planquent, hein, on a peur, même les femmes qui aiment simplement la féminité sans être des revanchards de je ne sais quoi. Il y a beaucoup de romans aussi là-dedans. Je sais bien qu'il y a des abus, etc. Mais beaucoup d'abus sont liés à l'absence de père, justement. Donc il faut appeler un chat et faire une vraie étude sociologique sur la cause des maux. Parce que trouver des coupables, c'est un peu trop facile. Et dans ce cas-là, on élimine les hommes,
Oui.
etc. Donc là, il y a une dimension d'affirmation de soi qui est importante. Reconnaître que, un, je suis un homme et que c'est bon.
Donc tu te reconstruis, Bertrand Chevalier-Champy, autour de cette masculinité, de cette,
Bah
je
de
dirais,
masculinité, j'aime pas trop le mot parce
mais
qu'en
ça fait
fait, c'est
rien.
très clivant comme
Mais
mot
voilà,
aujourd'hui.
ok.
C'est troublant de voir que ce mot-là est clivant alors que féminité ne l'est pas du tout.
Bon,
Voilà,
devant
donc
cette...
j'évite d'utiliser ce mot-là
Bon, moi je
personnellement.
l'utilise, Bertrand Chevalier-Champy,
Ok.
et je pose cette question aussi avec beaucoup de, ben, je dirais, d'interrogation. Ces hommes dont vous en occupez au cœur des hommes, que tu visites et que tu accompagnes dans les prisons ou à la sortie, ces hommes blessés par la vie, par le péché, par la délinquance, par l'abandon de leur père ou par le manque d'amour, et tu viens leur dire, mais vas-y, reconstruis-toi, tu es un homme, tu vas y arriver, tu es fort, tu vas...
Alors,
Toi. Et alors comment ce message s'adapte devant la blessure, Bertrand Chevalier-Champy? Parce qu'il y en a, et notre société a été blessée dans ce qui est masculin, de ce qui est homme, quelque part, dans la paternité. Et là, on essaye de courir après, de rattraper tous les manquements. Quel message, quelle méthode, quels moyens vous utilisez pour aider ces hommes à se reconstruire?
En fait, ce n'est pas un message, ce n'est pas une injonction comme tu as pu le
Moi,
faire
je pose la question, à
le
toi de nous
sous-entendre,
répondre.
mais je te réponds. C'est qu'en fait, on endosse un rôle de figure paternelle. C'est-à-dire qu'on assume d'être une figure paternelle et on va exercer la fonction paternelle avec les hommes. Qu'on rencontre, qu'on croise et dont on s'occupe. Par exemple, tu as cité le mot de la blessure. Pour un homme, être blessé, c'est un truc, c'est comme une abysse. Ça fait peur de se reconnaître blessé. Parce qu'on a tellement peur d'être fragile, de ne pas être au niveau, que du coup, on sait bien qu'on est blessé, mais ça nous fait prendre un chemin de traverse où on renonce à regarder cette blessure, ce qui nous mène directement dans une impasse, dans une imposture. Du mec qui se dit non, mais moi j'ai pas de problème, tout va bien. Alors que la réalité de son cœur, c'est que tout va mal. Mais ce qu'il va présenter au monde, à son épouse peut-être, à ses enfants et à ses copains, c'est tout va bien, moi ça va, j'ai pas de problème. C'est les trucs que vous faites là, c'est pour les autres, c'est des gens blessés, c'est des gens abîmés, oh là là. Moi, il m'est rien
Tout va
arrivé.
bien, mon
Moi,
boulot va bien, ma
j'ai
femme est
pas
là, à la
subi
maison.
le péché des origines, je ne pêche pas d'ailleurs.
Ah ouais,
Et
c'est
tout va
parfait.
bien. Voilà, je suis mec parfait en fait. Mais tout le monde sait bien que c'est une énorme connerie. Enfin, c'est pas vrai.
Pardon,
C'est un
père.
gros mensonge. Pardon, je dis des gros mots, hein. Mais voilà, parce que en fait, c'est tellement énorme qu'on
Bon.
peut pas être chrétien et avoir ce discours-là. C'est pas possible.
Rebonsoir, chères auditrices, chers
Rebonsoir.
auditeurs. Voilà. Aujourd'hui, nous terminons notre émission avec Bertrand Chevalier-Champy, où nous avons parlé de Saint-Joseph, père, éducateur, transmetteur, mais nous n'avons pas parlé de Saint-Joseph, époux de Marie. On avait un peu abordé, mais qui est modèle aussi, bah, du bon mari. Et nous savons aujourd'hui encore que dans nos familles, autour de nous, il y a beaucoup de blessures dans les familles, beaucoup de séparations. Et c'est devenu quand même, je dirais, un fait ordinaire de voir des couples se déchirer, se séparer, des enfants qui souffrent, qui sont tourmentés, qui tentent de suicide, qui font beaucoup de mauvaises choses ou qui partent dans des mauvais chemins parce que le couple papa-maman, ça n'a pas marché. Je sais que Bertrand Chevalier-Champy, c'est un sujet qui te tient à cœur et je voudrais que tu nous donnes une note d'espoir, une note d'espérance en fin d'émission sur ce qui est possible de faire et comment vous le faites et par quel moyen de mettre un petit peu de paix, un peu de joie, un peu de réconciliation dans les familles. Ce n'est pas le conseil conjugal, ce n'est pas le travail thérapeutique des couples, mais il y a des choses aussi concrètes qu'on peut donner. Et puis, prendre aussi ce Saint-Joseph modèle du bon mari, du super mari, de l'époux juste, bon, chaste. Bah oui, celui qui aime sa femme, mais ouais. Qui aime sa famille.
Ouais. Eh bien, alors c'est un très vaste sujet, mais si on veut être synthétique et percutant ce soir, on va se contenter à quelques points peut-être qui vont achoper. Il me semble, alors moi je me place toujours dans la perspective de la responsabilité de l'homme. Évidemment, dans le couple, la responsabilité est partagée. On ne peut pas dire c'est à cause des hommes ou c'est à cause des femmes. Seulement, la majorité des divorces et des séparations sont à l'initiative des femmes. Ça questionne sur le pourquoi les femmes ont décidé à un moment de fermer la porte et d'arrêter d'aimer coûte que coûte leur mari. Donc ça, c'est amusant. Mon épouse est en train de lancer des war rooms. Hein, vous connaissez le film de ces groupes de prières de femmes qui prient pour leur mari et qui prient pour qu'elles soient en mesure de parvenir à aimer leur mari. Voilà, parfois les femmes, et surtout dans l'ère actuelle, peuvent être assez exigeantes et parfois méprisantes et fermer la porte à l'amour d'un homme imparfait. Et elle cherche un homme parfait. Évidemment, on a tous en image l'image de Dieu de l'amour parfait. C'est ça auquel nos cœurs sont aspirés. Et on est toujours déçus dans l'amour d'un homme humain. Nous aussi, mesdames, nous sommes déçus par l'amour d'une femme qui est imparfaite également. Eh bien, nous, les hommes, on a aussi une disposition, puisque dans Éphésiens 6, Jésus nous demande de faire comme lui, c'est-à-dire de donner sa vie pour lui, il l'a fait pour l'Église, et il nous demande de le faire pour nos femmes. Et donner notre vie pour nos femmes, ça a quelques petites exigences. Il y en a quelques-unes, on va les citer rapidement. La maîtrise de soi, d'abord. Hein, l'homme qui se met en colère et qui s'autorise à être en colère et à être énervé et à être désagréable, c'est pas possible. Voilà. Deuxième chose, aujourd'hui, on vit dans une société, et ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité, qui est exposée à un drame, c'est la pornographie. La pornographie, on n'en parle pas suffisamment, ça ne concerne pas seulement les jeunes, pas seulement les adolescents, pas seulement les enfants, ça les concerne, et là, moi je milite pour l'abolition de ce truc et l'interdiction évidemment aux mineurs, si on peut le faire aux majeurs, parce que franchement, je trouve que c'est de la bêtise humaine, c'est de la distorsion de ce qui est de plus beau dans la relation de l'homme et de la femme, c'est l'union des corps, qui est l'image la plus proche de l'amour trinitaire, selon saint Jean-Paul II. Donc, il ne faut pas s'étonner que ce soit très abîmé. Et aujourd'hui, on a trop d'hommes, qui vivent cette pornographie, qui l'expérimentent, qui en sont soit addicts, et là, il faut se faire accompagner, puisque c'est un vrai sujet qui mène au divorce, hein, parce que la femme, elle n'est pas idiote, elle sent bien, ça provoque des idées, des fantasmes, ça impose des actes à la femme comme étant normaux, qui ne le sont pas, qui ne respectent pas la dignité de la femme. Et donc, quand il y a de la pornographie, il y a aussi de la masturbation, et en fait, tout ça, c'est juste pas possible quand on est marié. Un évêque me disait, là-dessus, c'est le coup de hache. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas, ouais, mais une fois par mois, ça va. Non, c'est le coup de hache. Et en fait, les hommes, pour ça, c'est pour ça qu'on a besoin de force. C'est pour ça que la force de l'homme, elle doit être cultivée, parce que la vie d'un homme, c'est pas un long fleuve tranquille. Donner sa vie pour sa femme, c'est pas facile. Renoncer à tout ce qui, à toutes les tentations d'ordre sexuel avec cette possibilité très simple de regarder un film porno quand ma femme m'ennuie et que je la comprends pas et qu'elle me saoule et que ça va pas, et ben en fait c'est une catastrophe. Voilà, et c'est une tentation très forte qui nécessite que l'homme, il ait une colonne vertébrale, qui soit bien ancré, bien présent, bien solide.
Un joli programme pour nous les hommes. On n'aura pas le temps de tout développer ce soir. Je sais que tu es investi dans beaucoup de mouvements. On va peut-être les reciter un peu. Au cœur des hommes, cœur de père, phénix aussi, phénix, et les vérômes. Tu t'occupes aussi de pères, les prêtres. Mmh. Il y a beaucoup de sujets. Et tu as dit que tu es en train d'écrire un livre, mais tu en as écrit un autre qui s'appelle...
J'ai écrit un bouquin qui est paru chez Arthège qui s'appelle « Accomplir sa vie d'homme ».«
Accomplir sa vie d'homme », c'est Arthège. Et puis, Bertrand Chevalier-Champy, le site pour les statuts.
Ah oui,
exact. Voilà.
BertrandChevalierChampy.fr.
Vous trouvez les statuts, vous pouvez aussi les commander en ligne et de faire connaître tout ce que nous avons partagé ce soir. Bertrand, je te souhaite une très belle soirée. Merci d'être mon invité une deuxième fois pour qu'on complète un petit peu tout ce que tu fais et d'apporter cette belle parole de paternité et de fierté et de virilité et de vérité. Et c'est très beau de vivre cela. Je souhaite à tous nos auditrices et nos auditeurs une belle fête aussi de la Pentecôte qui prépare vos cœurs à recevoir ce flot d'amour, ce flot de dons, ce flot de grâce, et puis surtout aussi Mariadon. Voilà, merci d'être généreux. Voilà, cette radio doit continuer, doit se propager. On a des belles émissions à faire connaître, des belles choses à vivre avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, et surtout aussi, continuons à aimer la Sainte Famille, Saint-Joseph, et notre maman Marie. On est sur Radio Maria. Marie, la super maman avec un super papa, Joseph. Soyons comme eux un modèle de sainteté pour nos enfants, pour ceux qui sont mariés, et puis nous de vivre aussi dans nos familles ce modèle même en tant qu'enfant. Enfant, quel que soit notre âge, d'être un enfant aussi à l'image de Jésus comme il était au sein de la Sainte Famille. Belle soirée à tous et je vous retrouve le mois prochain. On se rapproche de la fête des pères et on continuera à parler de ces sujets-là. Mais d'ici là, bonne fête aux mamans que nous fêterons dans 10 jours.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Cœur à cœur avec Fouad Hassoun qui était accompagnée aujourd'hui par Bertrand Chevalier Chantepy. Émission que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.